Mesdames, Messieurs, auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangou, bonsoir et ravi de vous retrouver ce soir sur ce plateau du Studio Kalangou pour échanger sur la question des élections présidentielles, forum spécial candidat au Niger 2021. Je suis Bakim Batour Al-Mustapha. Le Studio Kalangou, fidèle à sa mission d'information, vous offre l'opportunité de découvrir les programmes politiques des 30 candidats déclarés éligibles à l'élection présidentielle du 27 décembre prochain. Le Studio Kalangou se propose durant cette campagne électorale, de vous présenter 10 forums dans l'une des trois langues que sont le Hausa, le Zarma ou le Français. Et cela à raison de 3 candidats par émission. Ce soir, sur ce plateau, nous allons nous retrouver avec Itnikar Alassane, qui est le président du parti Akalkassa, et également M. Aboubakar Abbas, qui est le représentant du parti Nigerena, Niger en avant. Nous avons pour ce forum invité le parti Amin Amin, mais qui n'a pas répondu présent pour la tenue du présent forum. Bienvenue à toutes et à tous dans ce forum spécial élection au Niger. Monsieur Itnikar Alassane, président candidat au nom du parti PNPD Akalkassa, dites-nous quel est votre programme, quelle est la priorité dans votre programme? Vous êtes candidat aux élections présidentielles 2021.
Merci, monsieur, de nous avoir donné cette occasion. Nous, notre priorité de notre programme politique, premièrement, c'est l'unité nationale. Une justice juste et indépendante, et la lutte contre la corruption, et l'éducation, la santé.
Vous avez parlé d'une justice comme priorité. Qu'est-ce que vous comptez, comment comptez-vous investir pour qu'il y ait une justice indépendante?
Pour qu'il y ait une justice juste et indépendante, nous, une fois au pouvoir, on va réformer la justice et on va mettre en place une commission. On va permettre à tous les peuples nigériens de dénoncer. Et tout Nigérien qui dénonce l'injustice, la corruption ou le détournement des deniers publics, il sera récompensé par notre gouvernement. Et par rapport aux fautifs, ils seront radiés de la fonction publique et encore, on va les amener en prison. Par rapport au détournement des deniers publics, tout Nigérien qui détourne les deniers publics jusqu'à un volume de 500 millions sera exécuté devant tous les Nigériens. Car selon nous, c'est la seule méthode pour lutter contre le détournement des deniers publics et la corruption.
D'accord. Donc,
des Itnikar Alassane, son gouvernement, ses femmes, ses enfants, tout celui qui détourne les deniers publics ou la corruption, on va l'amener en prison. Donc ça, c'est par rapport à la justice. Si on a une justice juste et indépendante, nos problèmes, les problèmes du Niger sont finis.
D'accord, merci. Nous avons compris, monsieur le président Itnikar Alassane, président du parti PNPD Akalkassa, candidat à la présidentielle du 27 décembre 2021. Nous allons revenir à monsieur Aboubakar Abbas, président du GEN, représentant du parti Niger en avant, Nigerena. Dites-nous quelle est la priorité de votre programme. Votre parti est également un nouveau parti sur la scène politique. Dites-nous qu'est-ce qui a motivé la création de ce parti et quelle est la priorité de votre programme pour les élections 2021.
La création de Niger en avant, c'est le constat qu'on a fait que depuis la conférence nationale jusqu'à aujourd'hui, pratiquement 30 ans, le Niger est stationnaire. Alors, nous, la majeure partie des animateurs de ce parti, c'est des personnes qui n'ont jamais fait la politique. On a dit, bon, peut-être c'est l'occasion d'amener un son neuf dans la scène politique nigérienne. Alors, et qu'est-ce qu'on veut? Naturellement, quelqu'un qui est dernier pendant 30 ans, son souhait le plus cher, c'est la prospérité. C'est de bouger de là où il est à la place des derniers. Alors, C'est la raison pour laquelle même notre devise, l'une de nos devises, c'est la prospérité. Mm-hmm. C'est unité, liberté, prospérité. Le Niger peut être prospère. Et pourquoi? Parce qu'on a toutes les potentialités. Mm-hmm. Le Niger fait partie des rares pays au monde qui a toutes les ressources qui conduisent à la richesse, à la prospérité. Mais paradoxalement, on est toujours dernier. On est dernier en termes d'indice de développement humain. Mm-hmm. Ça, c'est les statistiques. On est aussi dernier dans les constats. Mm-hmm. On vient de faire la tournée du Niger. On a vu que jusque-là, nos sœurs sont en train de puiser de l'eau du puits du matin jusqu'au soir, mm-hmm. à la main. Nos routes sont caoutchouteuses. Il n'y a rien qui marche au Niger. Mm-hmm. Alors, nous, on cherche la prospérité. Et cette prospérité, le socle premier, c'est d'abord la sécurité. La sécurité, c'est la priorité du Niger en avant.
D'accord, merci. Merci. Vous avez fait comprendre que votre parti politique veut voir du sang nouveau, une nouvelle classe politique sur la scène politique. Mm-hmm. Est-ce que, une fois arrivé au pouvoir, vous allez travailler avec les anciens qui ont déjà une expérience, ou bien à votre niveau, vous avez également des expérimentés qui seront là pour travailler de votre côté?
Le nom du parti le dit. Mm-hmm. Le parti s'appelle Niger. 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 Mm-hmm. Niger en avant. Mm-hmm. Et le Niger, c'est l'ensemble de la population nigérienne. Et monsieur Moustapha, on ne peut pas avancer de nulle part. Il faut partir de quelque part. Mmh. Et nos aînés sont là, ils vont nous accompagner. Mmh. On n'a jamais géré. Mmh. On ne sait pas pourquoi ils ont failli. Mmh. On va profiter de l'expérience pour nous dire où est-ce qu'on peut corriger. Mmh. Mais déjà, on a un programme bien défini qui est la prospérité et du pays et qui le Niger peut avancer. Par exemple, on dit que le Niger est un pays enclavé. Mmh. Il est enclavé uniquement par rapport à la mer, mmh. ou même par rapport à l'eau. Mais regardez à notre sud du Niger, c'est le Nigeria, c'est la première puissance de l'Afrique. Au nord, on a l'Algérie. S'il y a la sécurité, il suffit de faire un corridor qui relie l'Algérie et le Nigeria. Le Niger sera un pont pour ces deux pays développés là.
Effectivement, merci. Merci, monsieur Aboubacar Abbas. Nous allons à présent revenir à monsieur Itinikar Alassane, qui est candidat au nom du parti PNPD à Kalakassa. Dites-nous, monsieur le président, comment comptez-vous mettre en œuvre votre programme politique une fois élu?
Vous savez, tout de suite, on a parlé d'une justice juste et indépendante. Mm-hmm. Donc c'est de réformer la justice. Mm-hmm. La deuxième des choses, c'est par rapport à l'insécurité. Nous, selon nous, ici au Niger, l'insécurité, mm-hmm. c'est un commerce qui est entretenu par certaines puissances. Mm-hmm. Et encore en complicité avec les peuples nigériens.
Et qu'est-ce qui vous fait dire cela? Pourquoi pensez-vous
que... Ce qui nous fait dire cela, car aujourd'hui, on a plus de 5000 soldats étrangers dans notre pays qui sont venus pour sécuriser notre pays. Et depuis leur arrivée à aujourd'hui, dis-moi, qu'est-ce qu'ils sont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ces terroristes-là sont financés par qui? Qui leur fournit des armes? On fabrique les armes au Niger, au Burkina, au Mali. Qui leur fournit des armes? Qui leur fournit les matériels? Alors que ces bases militaires étrangères ont des drones, des satellites, elles ont des armes sophistiquées. Et qui fournit des carburants et des motos à ces terroristes? Où sont ces terroristes-là? Ici, au Niger, il y a eu des rébellions qui ont été maîtrisées par les soldats nigériens. Mmh. En collaboration avec tous les peuples nigériens. Mmh. Et par comment aujourd'hui on va nous dire que c'est un pays étranger qui va venir ici nous sécuriser? C'est impossible. Mmh. C'est même incroyable. Pour ce, nous, à notre niveau, une fois Itinikar Alassane au pouvoir, les bases militaires, c'est leur départ. On va les... Ils n'ont qu'à aller sécuriser leur pays et nous, on va s'occuper de notre pays. Mmh. On va renforcer la capacité de nos militaires. Et on va rehausser leur salaire, les salaires de nos militaires, et on va faire en sorte que les peuples nigériens collaborent avec nos militaires pour sécuriser notre pays. Les veuves, les orphelins de nos FDS seront pris en charge par notre gouvernement, et à chaque occasion où il y a l'intégration à la fonction publique, les 5% là sera octroyé à ces veuves et orphelins de nos FDS. Cela va faire en sorte que c'est cela qui va encourager nos FDS pour défendre notre pays. La sécurité d'un pays dépend du peuple.
Effectivement. Et là, monsieur le président, c'est par rapport au volet sécuritaire. Et quant aux autres volets, comment comptez-vous?
Au volet éducation. Moi, Intini Karala Sanki, candidat aux élections présidentielles au titre du PNPD à Kalkassa. Mes enfants sont dans des écoles publiques. Donc, une fois au pouvoir, du président de la République au planton et tous les membres du gouvernement ou tout celui qui est pris en charge par les budgets de l'État sera obligé d'amener ses enfants dans des écoles publiques. Donc, par rapport à cette question d'éducation, aujourd'hui, le président de la République, le gouvernement, les DG et consorts, ils ont leurs enfants à l'extérieur ou dans des écoles privées, là où on paye 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils vont s'occuper de l'école publique? C'est impossible.
D'accord. Donc, monsieur le président, nous allons revenir en détail dans un instant pour parler de cette question de l'éducation. Mais avant de revenir à vous, parler précisément de cette question de l'éducation, nous allons demander à Abbas Aboubakar, qui est le représentant du parti Nigerena, Niger en avant, de nous dire comment est-ce qu'ils comptent se mobiliser pour mettre en œuvre leur programme une fois à la tête de ce pays.
Le Niger dispose de telles ressources qu'il faut. Paradoxalement, le Niger, il a le pétrole, il a l'or, il a l'uranium, il a la jeunesse. La population n'est que 20 millions d'habitants. Et on a aussi des cadres bien compétents qui sont là. Où se trouve le problème? C'est un problème de leadership. Le programme, les pays voisins copie les meilleurs programmes chez nous, les meilleurs textes, mais c'est de l'application. Alors nous, on dit que c'est la sanction. Si le programme est bien détaillé, qu'on va exécuter, celui qui ne l'exécute pas, il est sanctionné. La mauvaise gouvernance sera bien sanctionnée, les détournements seront sanctionnés. Et on va mettre la population nigérienne en confiance. Confiance vis-à-vis de ce gouvernement, en faisant quoi? Parce que notre programme est accentué sur la justice sociale. La justice sociale, c'est l'école, c'est la santé, c'est la liberté de se promener dans le pays comme on veut, à n'importe quel qu'on veut. Alors, c'est ça notre objectif, c'est ce qu'on va faire pour exécuter notre programme.
D'accord, merci. Nous avons très bien compris. Merci à Aboubakar Abbas, représentant du parti Nigerena. Nous allons à présent, chers invités, après avoir entendu les priorités, parler de la question de l'éducation. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, les projections montrent que la population en âge d'entrée en première année du cycle fondamental CI devrait atteindre plus d'un million d'enfants chaque année d'ici 2030. Contre environ 400 000 enfants en 2001. Si l'État nigérien veut accueillir tous ses enfants, rien que pour la CI, il va falloir construire 10 000 nouvelles salles de classe et recruter autant d'enseignants. Alassane Tinikar, président du parti PNPD à Kalkassa, candidat au titre de ces élections présidentielles du 27 décembre 2020, que comptez-vous faire de spécial pour le secteur de l'éducation au Niger, notamment pour le primaire, le secondaire et l'université?
Et tout de suite, je vous ai un peu parlé de comment gérer l'affaire de l'éducation. Si les présidents de la République, les ministres, c'est un gouvernement, ont leurs enfants à l'université, dans des écoles publiques. Donc, on est obligé, si Intinikar Alassane, président de la République, a son enfant qui en a à l'âge de 6 ans, dans une école publique, dans une classe à Payotte. Donc, Intinikar et son gouvernement sont obligés de s'occuper de l'école publique dans notre pays. Donc, par rapport à cette question, c'est la volonté politique. Car avant même d'être candidat, j'amène mes enfants dans des écoles publiques. La question des constructions, des classes, la prise en charge de ces des élèves et des enseignants, nous avons les ressources, mais ils sont mal gérés dans notre pays. On a le pétrole, l'or, l'uranium, les charbons, on a tout. Mais le problème, ces ressources-là sont mal gérées, comme l'a dit le président de la République actuelle de ces pays. Lors d'une de ses sorties médiatiques, il avait dit que le Niger est riche, mais il est mal géré. Il a été toujours mal géré depuis la conférence nationale à aujourd'hui. Donc, si la justice est juste, indépendante, tous ces problèmes-là seront résolus. Donc, nous, par rapport à l'éducation, d'ailleurs, on vous a dit qu'on va amener tous nos enfants dans des écoles publiques. Et on va construire des classes. Mais avant même la construction des classes, on va recruter des enseignants. Aujourd'hui, allez-y à l'université. Pour recruter un enseignant-chercheur, il faut attendre jusqu'à ce qu'un enseignant-chercheur part à retraite ou s'il meurt, on les remplace par un autre. Nous, on va les recruter. On va recruter chaque promotion. On va créer l'emploi. Et en dehors de cela, c'est par rapport à l'éducation. Nous, nous avons promis qu'une fois au pouvoir, on va intégrer les imams et les pasteurs. On va intégrer à la fonction publique les enseignants coraniques. Et on va prendre aussi en charge tous les talibés là qui circulent sur la route. On va les prendre en charge en créant des internats. Et cela va permettre à tous les peuples nigériens de s'éduquer. Donc par rapport à cette question d'éducation, c'est la volonté. Si le président de la République a ses enfants là-bas, son gouvernement, tous les gens pris en charge par le budget de l'État, je vous le jure que ces problèmes-là de classe en paillotte, c'est fini. Et l'éducation va retrouver sa noblesse d'antan. Car aujourd'hui, il y a une complicité des hommes politiques. Et tout celui qui gouverne, il va essayer de faire en sorte que ces enfants des pauvres-là n'évoluent pas. Et ça, je pense que tous les Nigériens sont d'accord avec moi par rapport à cette question dans notre programme politique.
Alors, monsieur
le c'est le même problème que la santé.
D'accord. Avant de venir à la question de santé, monsieur le Président, nous avons compris que pour la question de l'éducation, vous voulez créer les conditions pour que les Nigériens, les leaders, les dirigeants puissent avoir leurs enfants au niveau des écoles publiques. Et quel sera le sort qui sera réservé aux écoles privées? Est-ce qu'il y aura une modification ou bien ça sera toujours la liberté dans la création des écoles privées? Ceux qui veulent peuvent envoyer leurs enfants.
Le 50% sera géré par notre gouvernement. On ne va jamais laisser un individu gérer une école publique ou une clinique. Ça, c'est clair. Car aujourd'hui, si vous suivez bien dans des écoles auparavant, pour si tu vois un enfant, un élève dans une école privée, sache que c'est des paresseux de la classe. Et aujourd'hui, les écoles publiques, là, ils ont même, les écoles privées, ils ont même enterré les écoles publiques. Donc, dans chaque école privée, il y aura un représentant du gouvernement qui va suivre de près. Ça, c'est une question d'intérêt national, ce n'est pas un intérêt individuel. Les écoles, ce sont des individus, ce sont des Nigériens qui créent des écoles.
Merci, nous avons compris, Monsieur le Président. Avant de parler santé, nous allons revenir avec Aboubakar Abbas, qui est représentant du parti Nigerina. Dites-nous, qu'est-ce que vous prévoyez pour le secteur de l'éducation dans votre programme?
Merci, Monsieur Al-Mustapha. L'instruction des Nigériens et des Nigériens nous tient beaucoup à cœur dans notre programme. Le constat d'abord. Le constat est que, à travers cette instruction, aujourd'hui, les Nigériens sont divisés. Et ils sont divisés en quoi? Alors, on a les Nigériens qui sont divisés en deux parties. Une partie qui est la classe nantie, la classe moyenne, la classe nantie, qui peut amener ses enfants à l'école privée. Et les enfants des pauvres qui sont obligés d'amener leurs enfants dans l'école publique, qui aujourd'hui, désolé, à terre. Donc ça, c'est le constat. Alors, Nigerina, qu'est-ce qu'on dit? On dit, c'est bon de construire des classes. C'est bon de construire des classes, c'est bon. Mais ça suffit. La quantité, elle suffit. Nous, ce que nous tenons le plus à cœur, c'est la qualité. Alors, il faut tout revoir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai ma maîtrise en économie, on m'envoie enseigner les maths. Est-ce que j'ai la pédagogie pour enseigner? Ceux qui sortent de l'école normale, je suis d'accord, ils ont été formés avec la pédagogie qu'il faut. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui partent enseigner avec le système de volontariat, avec le système de contrat, ils n'ont aucune pédagogie. Ça, c'est au niveau des ressources humaines qu'il faut mettre en place. Il faut revoir la qualité. Les enseignants qui sont sur le terrain actuellement, il faut les remettre à niveau. OK? Alors, c'est là où il y a un manque d'enseignants, il faut recruter. Mais il ne faut pas recruter juste parce que la personne a un diplôme en maths, ou bien un diplôme en psychologie, ou bien un diplôme en sciences de vie et terre, et on va enseigner. Enseigner, ça revient, il faut, c'est de l'art. Il faut avoir la pédagogie pour enseigner. Même si vous avez votre diplôme de mathématiques, on va vous envoyer d'abord pour vous former, pour vous doter des moyens nécessaires pour former ces élèves-là. Alors, le système, le programme scolaire, il faut le revoir. Aujourd'hui, on forme plus de chômeurs que de diplômés qui peuvent servir à quelque chose. On ne part pas à l'école seulement pour pouvoir à l'emploi. On part à l'école aussi pour pouvoir créer des entreprises, donner de l'initiative. Okay? Mm-hmm. Les écoles privées, c'est des écoles. Nous, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Mais une école privée, c'est une entreprise aussi. Elle emploie des gens, elle recrute. Mm-hmm. Mais il faut l'encadrer. Et si vous prenez, par exemple, si dès l'école primaire, la base, le niveau est bas, le niveau est mauvais, pensez-vous qu'une personne qui part à l'étranger étudier ou bien qui part à l'université, elle sera compétitive? Mm-hmm. Donc, il faut revoir le système de l'école primaire jusqu'à l'université, jusqu'aux études supérieures. Mm-hmm. Et revoir le programme aussi. Alors, dans l'une des initiatives, on constate qu'aujourd'hui, il faut être dans l'actualité. Qu'est-ce qui est à la mode aujourd'hui? Ou bien, le monde est où? C'est quoi? Il y a la technologie aujourd'hui. Il y a la science qui est avancée. Mais est-ce que nos universités sont compétitives? Mm-hmm. Donc, nous, on a dit, à notre université Abdou Mouni, on va créer d'abord une cité de la technologie et de la science qui sera dotée de tous les moyens de technologie pour qu'ils soient en contact avec les autres universités du monde, avec les centres de recherche du monde. Aujourd'hui, on a le Covid qui a mis le monde à terre. Tous les scientifiques sont à pied d'œuvre. Qu'est-ce que les Nigériens apportent? Qu'est-ce que les Nigériens apportent? Qu'est-ce que l'université apporte? Qu'est-ce que nos études supérieures rapportent? Mm-hmm. Est-ce qu'on a ces moyens d'apporter notre contribution au monde? On n'a pas ça parce que l'instruction est séclée. Donc, nous, notre chez nous, le quantitatif, oui, mais surtout plus le qualitatif. Le programme pédagogique, le programme scolaire qu'on donne aujourd'hui, il faut le revoir, mm-hmm. il faut l'adapter pour qu'une fois sortie, la personne soit à même de choisir. Est-ce que je décide d'être employé? Mm-hmm. Et l'emploi auquel je veux pourvoir, j'ai les capacités nécessaires qui correspondent à l'emploi que je veux occuper? Ou bien je choisis d'aller vers l'entrepreneuriat.
D'accord. Donc, nous Merci. Avons compris, M. Aboubacar Abbas, représentant du parti Nigerena. Vous voulez plus avoir un accent sur la qualité que sur la quantité et vous voulez qu'il y ait une révision du système éducatif au Niger. Nous allons donc à présent avec nos invités qui sont avec nous sur ce plateau. Malheureusement, nous avons invité le président du parti Amin Amine, mais qui n'a pas répondu à l'invitation pour la tenue du forum. Donc, dans le plan du développement sanitaire PDS 2017-2021 du Niger, il est dit que l'un des défis majeurs auxquels notre système de santé fait face est celui d'offrir à la population des prestations de qualité dans un esprit d'équité et dans un esprit social. Monsieur Itinikar Alassane, président du parti PNPD à Kalkassa, comment comptez-vous relever ces défis?
Merci
Quel
beaucoup.
Est votre plan pour l'accès aux soins et services de santé de qualité à la population nigérienne?
Par rapport à la question de la santé, la première des choses du président Itinikar Alassane, au planton, et tous les membres du gouvernement, et tous les gens qui sont pris en charge par les budgets de l'État, mm-hmm. seront obligés d'amener leurs enfants dans des centres de santé publique. Selon nous, c'est ça qui va remédier à toutes ces questions. Car aujourd'hui, au Niger, et on va suspendre toutes ces évacuations-là. Si Itinikar est malade, sera soigné soit à l'hôpital national, soit à l'hôpital de référence.
Monsieur le Président, donc est-ce que le Niger dispose des matériaux nécessaires et suffisants?
Mais tout de suite, je vous ai dit qu'au Niger, mm-hmm. on dispose de tout. On a tous les moyens, on a des ressources, mais le pays est mal géré. Mm-hmm. Car aujourd'hui, moi, j'étais une fois à l'hôpital pour soigner ma dent. Mm-hmm. Et on m'avait dit que ah, il n'y a pas ces matériels-là. Il faut aller dans un centre de santé privé. Mm-hmm. Par comment un gouvernement, une république, ne dispose pas d'un matériel et qu'un seul, Nigérien, un individu
puisse en disposer?
C'est pas possible. Donc, on va dépolitiser l'administration, y compris la santé. Car aujourd'hui, vous n'êtes pas sans les avoir une fois à l'hôpital national. C'est même ces médecins-là qui vont créer des conditions pour te décourager. Et on met même des jeunes gens qui vont aller vers les malades pour mener des enquêtes qui a les moyens parmi eux. Et il sera découragé par ces mêmes médecins et ils vont les pousser à aller dans une clinique pour se soigner. Donc cette affaire des cliniques-là, si tu es fonctionnaire de l'État, docteur, médecin ou infirmier, tu n'auras jamais le droit de créer une clinique ou de travailler dans une autre clinique privée. Donc nous, cette question de la santé, car on a les moyens. Cela va nous permettre à ce temps-là, l'État est obligé d'acheter tous les matériels nécessaires. Et on va créer des centres de santé partout au Niger. On va intégrer tout Nigérien qui a cette qualité-là. Et on va aussi rehausser leur salaire.
D'accord. Donc, nous avons compris, Monsieur le Président. Il faut rappeler que selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, on dispose en moyenne dans le monde de 13 médecins pour 10 000 habitants, avec d'importantes variations entre les pays et les régions. En Afrique, par exemple, il n'existe qu'en moyenne 2 médecins pour 10 000 habitants, selon l'OMS. Au Niger, selon le gouvernement, le nombre de médecins est passé de 350 en 2010 à environ 1400 en 2018, ce qui est en termes de ratio équivaut à un médecin pour plus de 15 000 habitants. Que comptez-vous faire pour améliorer cette situation?
Pour améliorer cette situation, pour avoir un médecin, si l'école nigérienne marche, on aura beaucoup, beaucoup de médecins. Et aujourd'hui, allez-y vérifier. Il y a des médecins qui sont assis, qui ne font rien, qui chôment avec leur diplôme. Donc on va les intégrer. Car on a les moyens, ce n'est pas les moyens qu'on n'a pas. Je vous ai dit que cette question de santé, d'éducation, ils ont été politisés. Tout revient à la malgouvernance. Car les moyens, personne ne nous dira que si au Niger, on n'a pas les moyens de s'occuper de notre santé, de notre éducation et de tout, de tout. Le Niger est un pays riche. Ce n'est pas un problème de texte. On n'a pas les problèmes de texte, c'est le problème des gestionnaires de ces textes-là. Car aujourd'hui, tu es médecin. Si, même si tu fais un bon boulot ou bien tu dénonces certaines choses, on va t'amener soit à Ngourti ou à Bilma. Ou on te chasse même de la fonction publique. Car vous n'êtes pas ça, les sables. Nous, on a dit dans notre programme, tout celui qui dénonce une injustice ou un détournement ou une maladie sera récompensé par notre gouvernement.
D'accord.
Donc cette question de santé-là, nous, on a fini avec. Une fois au pouvoir, cette question de santé, aucun peuple ne va se plaindre par rapport à la question de la santé.
D'accord, merci. Nous avons compris, Monsieur le Président, vos priorités, votre programme par rapport à la question de santé. Nous allons revenir avec Aboubacar Abbas, qui est le représentant du parti Niger en avant, Nigerena. Comment comptez-vous améliorer l'accès aux soins et services de santé de qualité à la population nigérienne avec un tel ratio dont nous venons de parler par rapport au rapport de l'OMS?
Merci, Monsieur Moustapha. Merci. Alors, le constat d'abord toujours, le constat est que on a une classe d'élite qui se fait soigner à l'étranger sur le dos du contribuable. Et on a une population, la majeure partie de la population, parce qu'on dit 75% de la population du Niger est pauvre, elle n'a pas 500 francs pour subvenir à ses besoins nutritifs, qui, elle, est obligé d'aller se soigner ici au Niger dans nos centres de santé
public.
Qui, une ordonnance de 1000 francs, à cause d'une ordonnance de 1000 francs, le patient peut malheureusement perdre la vie. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Si on arrive à comprendre que aujourd'hui, 35 milliards de francs CFA est alloué aux évacuations. 35 milliards. On fait un simple ratio. L'hôpital de référence de Niamey a coûté dans les environs de 45 milliards. En 5 ans, 35 milliards, ça fait 150 millions. Le calcul est vite fait, ça ne fera au minimum 4 hôpitaux de référence. Alors, notre programme, on dit, sans chercher un autre financement, rien qu'à partir des évacuations, rien qu'à partir du financement des évacuations, on va arrêter les évacuations, mais pas pour que les Nigériens meurent. On dit tout le Nigérien, que ce soit la classe d'élite ou bien la population, c'est l'unité, l'égalité, la liberté. 35 milliards investis dans la construction des infrastructures pour construire au moins 4 hôpitaux de référence en 5 ans sur la base du financement des évacuations, sans chercher un autre financement. Ça, c'est la première des conditions. Mais ce serait trop illusoire de penser que l'État à lui seul peut prendre la santé de la population. Ce n'est pas possible. Nous, nous prenons l'initiative. Il faudrait que le Nigérien ait cette situation de donner. Donnez-moi. On va vous donner, l'État est là pour nous donner. Non. Il faudrait que le Nigérien se prenne... On arrive à arriver à un stade où le Nigérien peut s'autosuffire. Il peut lui-même se prendre en charge. Et pour cela, on a fait quoi? On a dit qu'il faut qu'on instaure au Niger un système d'assurance maladie universelle pour tous les Nigériens. Et en fonction de tes moyens, tu le souscris. C'est ça l'idée. Donc, pour un premier temps, on va arrêter les évacuations. Cet argent-là, on va l'orienter dans la construction des infrastructures. La formation y est déjà, on en a parlé. Il faut former nos militants, il faut former notre population, excusez-moi du terme, à force de l'employer. On va le doter de plateaux techniques adaptés. Et notre ambition, c'est que le Niger devienne un pays de tourisme de santé.
D'accord, donc nous allons compris.
Alors, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Alors, si on a des hôpitaux de référence qui sont là, bien installés, au lieu que les Nigériens sortent dépenser 35 milliards, on s'attendra à avoir aussi, nous aussi, des 35 milliards qui viendront de l'étranger pour que les gens viennent se soigner au Niger. Donc, ça tournera autour de 70 milliards. Qui seront investis dans les infrastructures médicales. Merci.
Donc, on a parlé tantôt de un médecin pour 15 000 habitants au Niger. Selon un rapport de l'OMS, il faut environ 13 médecins pour 10 000 habitants. Que comptez-vous faire par rapport à cette situation?
Alors, moi, les statistiques, là, je n'y crois pas parce que c'est des statistiques qui comptent peut-être, je ne sais pas de ce qu'ils sortent. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, de Nigériens qui sont formés à l'étranger, qui ne passent pas par les statistiques de l'État. Et qui sont là, qui sont revenus. Des fois, nous, c'est nos amis, c'est nos professionnels. Ils sont là, ils sont à la maison, ils sont en train de faire des vacations dans les cliniques. Est-ce que vous voyez? Alors, à partir de là, si vraiment le côté éducatif qu'on a tenu en compte est bien respecté, l'État du Niger mettra à disposition des médecins qui seront là et peut-être même qui seront exportés à l'étranger.
Pour soigner les populations. Les
gens. Et aussi, pour cette histoire de santé... Nous, on a beaucoup de Nigériens médecins qui sont à l'étranger, qui ont même fini par prendre notre nationalité, qui veulent même venir investir au Niger dans le domaine de la santé. Mais la politisation en fait en sorte que la personne, même si elle vient, elle ne peut pas avoir les papiers pour le faire.
D'accord. Donc, merci Aboubakar Abbas, représentant du Parti Nigériana. Nous allons à présent parler agriculture et élevage. La déclaration de Maputo préconise aux États membres de la CEDEAO d'investir au moins 10% des budgets nationaux dans l'agriculture et d'allouer 30% de cette part à l'élevage. Au Niger, la part du budget 2021 allouée au secteur de l'agriculture est de 4,3% et était de 3,6% dans le budget de 2020. Donc, Monsieur Alassane Itinikar, dites-nous, que comptez-vous faire pour appuyer le monde rural?
Merci beaucoup. Par rapport à l'agriculture, l'élevage, il y a aussi l'eau, l'hydraulique. Donc, nous, ce que nous comptons faire, une fois au pouvoir, on va désensabler les fleuves Niger. Et on va mettre des paplins qui vont traverser toutes les communes et les villages du Niger pour que ces Nigériens-là aient de l'eau potable et de l'eau pour faire l'agriculture de contre-saison et abreuver leurs troupeaux. Par rapport à l'agriculture, nous allons créer toutes les conditions pour prendre en charge ces agriculteurs-là. Et tout l'étendue de notre territoire, on va les réaménager pour que les Nigériens eux-mêmes produisent leur nourriture. On va nous donner des matériels, on va prendre en charge ces agriculteurs et on va renforcer l'agriculture dans notre pays. Les agriculteurs, là, leur production sera achetée par notre gouvernement et sera stockée dans nos magasins. Une fois qu'on a besoin, la population a besoin, on va les revendre moins cher ou les distribuer gratuitement. Tout alimentation bétail que ces agriculteurs-là vont produire, c'est notre gouvernement qui va l'acheter pour les donner gratuitement aux éleveurs. Donc par rapport à l'élevage et l'agriculture, c'est des activités qui partent ensemble. Aujourd'hui, les puissances mondiales, leur force, c'est l'agriculture et l'élevage. Et on a une terre, on a des troupeaux. Donc, par rapport à cette question d'élevage et d'agriculture, dans tous les villages du Niger, on va construire des barrages et des mini-barrages pour qu'il y ait de l'eau, pour abreuver ces troupeaux.
D'accord.
Et pour que ces agriculteurs fassent
leur activité.
D'accord.
Merci, monsieur le président. Nous avons compris. Nous allons demander, avant de parler sécurité, à Abbas Aboubakar de nous dire qu'est-ce qu'il prévoit pour l'agriculture et l'élevage.
Alors, merci beaucoup, Moustapha. Pour le Nigerina, l'élevage et l'agriculture nous tiennent beaucoup à cœur. Du simple fait que, aujourd'hui, le Niger, en termes d'élevage, est l'un des pays qui a le plus grand cheptel en Afrique. Mais paradoxalement, le Niger importe les produits laitiers. Un exemple banal. On importe les produits laitiers. Ça n'a pas de sens. D'abord, nos éleveurs, il faut les mettre à niveau au point de vue de la technologie. Mais ça ne suffit pas. Il faut les créer des débouchés. Et ce volet-là est lié, comme à tous nos projets, à l'industrialisation. Aujourd'hui, tout notre cheptel, il est fait ce qu'on appelle l'élevage de pied. C'est la transhumance. Ils vont jusqu'en Côte d'Ivoire, ils cherchent à faire nourrir leur bétail. C'est comme si même le cheptel n'existe pas au Niger. Ils reviennent seulement en période de soudure pour présenter les bétails aux parents et retourner. C'est des bétails du Niger. Il faut qu'on crée les conditions avec la technologie moderne pour qu'ils aient les moyens de leur subsistance au Niger. Ça, c'est la première des conditions. Mais s'il reste au Niger, il faut créer les débouchés. Aujourd'hui, l'élevage traditionnel qu'on fait, une vache, à l'exemple, elle produit 1 ou 2 litres par jour. Ailleurs, dans d'autres cieux, c'est 70 litres par jour par vache. Un concitoyen qui est dans le monde rural, s'il a une vache qui lui produit 70 litres ou 23 vaches, c'est une entreprise qu'il a. Est-ce qu'il aura besoin de chercher quelque chose à manger? Quelqu'un qui a 70 litres fois 3 de lait? Du côté de l'agriculture, vous savez, l'élevage de l'agriculture est lié au problème de l'eau. Mais ce qui est paradoxal au Niger, avec tout ce qu'on a comme vallée au Niger, la vallée de la Maja, le Kamoudou, Madarumfa, le fleuve Niger, mais on dit qu'on est un pays désertique, on a la sécheresse qui nous envoie. Tout récemment, c'était l'inondation à Rwanda. Je suis désolé, ça a créé beaucoup de victimes, ça a créé beaucoup de dégâts, ça a généré beaucoup de dégâts, mais pourquoi ne pas créer les conditions pour que cette eau-là soit retenue? Et qu'au lieu de faire la culture pendant 3 mois seulement, toute l'année, les Nigériens sont au champ. Alors, à cela aussi, nous on dit qu'il faut moderniser l'agriculture. Et pour la moderniser, il faut former nos agriculteurs. Alors, avec la mise en commun d'une différente vallée, l'élevage qui est de ce côté, qui est modernisé avec les débouchés qu'on lui crée, avec l'agriculture qui tient compte de toutes les surfaces, pas seulement au niveau des fleuves, nous on pense qu'en moins de 2 ans, le Niger sera un pays exportateur de produits agricoles.
D'accord.
Que ce soit le blé pour l'Algérie, qui est notre voisin, que ce soit le riz, aujourd'hui qu'on importe, alors que le Niger produit le meilleur riz au monde, l'un des meilleurs riz au monde, le riz du Niger, si vous le mangez, c'est sans arrière-goût, c'est l'un des riz les plus appréciés. Le violet de Galmi, c'est l'un des violets, c'est l'un des oignons qui est le plus reconnu en Europe, qui est le plus brisé en Europe. Donc nous pensons qu'il suffit juste de moderniser et de créer les conditions de déboucher. Et ces conditions de déboucher sont liées à quoi? Comme je l'ai dit au début, c'est lié au problème de route. Le Nigérien, il se débrouille. Malgré toutes les conditions qu'il y a, le Nigérien cherche à travailler pour lui-même. Il se débrouille. Donc si on crée les conditions d'exportation, c'est les routes seulement. Pour l'exportation, le Nigérien est capable d'exporter ses propres produits. Merci beaucoup.
D'accord. Donc, merci, monsieur Aboubakar Abbas, représentant du Nigerena. Chers invités, nous sommes presque à la fin de notre émission de ce soir. Donc, avant de terminer, nous allons parler sécurité. Sur le plan sécuritaire, depuis l'attaque kamikaze perpétrée en mai 2013 à Gadez et la première attaque de Boko Haram en février 2015 à Diffa et Bosso, le Niger fait face à une situation sécuritaire sans précédent. Étant entouré de plusieurs foyers de conflit, le Niger a vu l'insécurité s'élargir sur l'ensemble du pays, d'importantes pertes en vies humaines et de dégâts matériels occasionnés. À ce jour, l'état d'urgence sécuritaire sévit dans trois régions, notamment Tawa, Tilaberi et Diffa. Une fois élu à la Sani Tinkar, comment comptez-vous agir pour que tous les Nigériens vivent en sécurité?
Tout de suite, on a parlé de la sécurité. Mm-hmm. Donc, ces volets-là, mm-hmm. par rapport à l'état d'urgence, mm-hmm. Nous, on va annuler cet état d'urgence. Mm-hmm. On va laisser les motos mm-hmm. circuler comme ils veulent, car c'est cela qui va nous permettre mm-hmm. d'identifier ces commerçants-là, mmh. ou ces gens-là qui sont là en train d'entretenir ces commerces, qui sont là en train de tuer nos militaires.
Les commerces sur la base de l'insécurité.
Oui, les commerces sur la base de l'insécurité. Aujourd'hui, on refuse aux motos, à la population d'utiliser des motos. Mais si on laisse cette population-là, on collabore avec elle, mmh. c'est eux-mêmes qui vont attraper ces terroristes. Mais aujourd'hui, on empêche à la population, on t'empêche même de sortir devant ta porte. Donc, on permet à ces terroristes de venir circuler comme ils veulent dans la ville et tuer qui ils veulent et de repartir sains et saufs. Donc, cette question vraiment d'état d'urgence là, au Niger, là, nous, on va la supprimer.
D'accord, merci, nous avons compris, monsieur Alassane.
On va laisser les motos circuler dans notre pays.
D'accord, très bien, merci Monsieur le Président, nous avons compris. Monsieur Aboubakar Abbas, avant de finir cette émission, dites-nous quel est votre programme par rapport à la question de sécurité. Comment faire en sorte que les Nigériens vivent en sécurité?
Merci beaucoup Monsieur Alassane. Alors, comme je le dis, notre vision c'est que le Niger soit un pays prospère. Et on a dit que notre priorité c'est la sécurité. Alors, on ne l'a pas dit gratuitement comme ça, parce qu'on a un programme bien défini pour la sécurité relativement au Niger en avant. La première des choses, une fois arrivé, on va instaurer pour la première fois au Niger ce qu'on appelle une loi de programmation militaire au Niger. Mmh. Alors, l'armée, nos forces de défense et militaires, nos forces de défense et de sécurité auront une loi, nous aurons les moyens de faire face à tous ceux qui menacent pour le pays. On ne sera plus avec une armée qui agit par l'urgence qui se présente. Non, on va définir sur 10 ans qu'est-ce que notre armée fera et comment est-ce qu'elle va mettre le pays en sécurité. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de prospérité. Alors, et cette loi de programmation, elle aura son propre budget à part, qui ne sera pas lié au budget du gouvernement. Et c'est un budget à part pour l'armée qui sera géré. Et ce budget-là, dans cette loi-là, il n'y aura plus d'importation du matériel basique de l'armée. C'est les rangers, les treillis, et pourquoi pas jusqu'à même les balles et le moyen de transport pour notre armée. Le moyen de transport pour l'armée, c'est peut-être on va importer juste le moteur et les boîtes à vitesse, mais la métallurgie, la caisse, on n'a pas besoin d'importer. Alors, eux-mêmes, ils vont construire leur propre véhicule, eux-mêmes, ils vont confectionner leur propre habit, ils vont confectionner leur propre rangers et ça va en rapport avec l'industrialisation. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut donner à l'armée les moyens de s'autodéfendre sans qu'elle soit liée à un quelconque politique.
D'accord. Donc, nous avons compris, monsieur Aboubakar Abbas, représentant du parti Nigériena. Mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Forum du Studio Kalangou, forum spécial Élection Niger 2021. Forum que nous diffusons sur nos 46 radios aux partenaires par rapport à la tenue des élections qui nous a permis d'échanger sur les programmes des 30 candidats aux élections présidentielles. Nous avons retenu dans ce forum qu'il faudrait créer les conditions de revoir le système éducatif, d'investir dans les différents domaines pour que le Niger également puisse retrouver sa sécurité. Dans ce forum, nous étions en compagnie de Alassane Tinkar, président du parti PNPD à Kalkassa, candidat pour les élections futures du 27 décembre 2020, et également de M. Aboubakar Abbas, représentant du parti Niger en avant, Nigerena. Nous avons invité pour ce forum le président du parti Amin Amine, le président du parti Amin Amine, mais qui n'a pas répondu pour la tenue du présent forum. Présentation Bakim Batoura Al-Mustapha, régie technique Issaka Seni. Merci pour avoir suivi ce forum. À bientôt pour un autre forum sur des thématiques d'actualité.